En aucun domaine, les sociétés occidentales existantes ne se distinguent des sociétés antérieures, qu'elles soient européennes ou orientales, que dans celui de la conception du temps. Pour le chinois ou le grec ancien, pour le berger arabe ou le paysan mexicain, le temps était représenté par le cours cyclique de la nature, l'alternance du jour et de la nuit, le passage de saison en saison. Ils mesuraient leurs jours depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et leurs années en fonction du temps de la semence et du temps de la récolte, de la chute des feuilles et de la fonte des neiges. Le paysan travaillait en fonction des éléments, l'artisan tant qu'il pensait nécessaire de perfectionner son produit. Le temps était perçu à l'intérieur d'un processus de changement naturel, et les hommes n'étaient pas intéressés par son décompte exact. Nulle part dans le monde antique ou médiéval, il n'y eut plus d'une petite minorité d'hommes concernés par le temps en termes d'exactitude mathématique. L'homme moderne vit dans un monde régi par les symboles mathématiques et mécaniques du temps de l'horloge. L'horloge dicte ses mouvements et domine ses actions. Elle transforme le temps, de processus naturel qu'il était, en marchandise qui peut être quantifiée, achetée et vendue comme de la soupe ou du raisin. Et parce que sans quelques moyens de garder l'heure exacte, le capitalisme industriel n'aurait jamais pu se développer et ne pourrait continuer à exploiter les travailleurs, l'horloge représente un élément de tyrannie mécanique dans la vie des hommes modernes, plus puissant que n'importe quel exploiteur individuel ou que n'importe quelle autre machine. Il y a une tradition selon laquelle l'horloge serait apparue au XIe siècle comme mécanisme pour faire sonner les cloches à intervalles réguliers. Toutefois, la première horloge authentique est apparue au XIIIe, et ce n'est pas avant le XIVe siècle que les horloges devinrent les ornements ordinaires sur les bâtiments publics des villes germaniques. L'idée de mesurer le temps en minutes et secondes avait été émise par les premiers mathématiciens du XIVe siècle, mais cela n'exista pas jusqu'à l'invention du pendule en 1657, et la trotteuse ne vit pas le jour avant le XVIIIe. Il convient de noter que ces deux siècles furent ceux pendant lesquels le capitalisme connut une croissance telle qu'il fut en mesure de profiter de la révolution industrielle en termes techniques pour établir sa domination sur la société. Techniquement, l'horloge a été la première machine réellement automatique qui ait pris une quelconque importance dans la vie des humains, une importance publique et une fonction sociale. Socialement, l'horloge a une influence radicale sans commune mesure avec n'importe quelle autre machine, dans la mesure où elle fut le moyen d'atteindre au mieux la régulation et la discipline de vie nécessaires au système d'exploitation industrielle. Elle a fourni le moyen par lequel le temps a pu être mesuré concrètement. Désormais mesurable en symboles mathématiques, il finit par être considéré comme un bien qui pouvait être acheté et vendu de la même manière que n'importe quel autre bien. Les nouveaux capitalistes, en particulier, développèrent une conscience farouche du temps. Le temps, symbolisant ici le travail des ouvriers, était conçu comme s'il s'était agi de la principale matière brute de l'industrie. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Les hommes se transformèrent de fait en horloges, agissant avec une régularité répétitive, sans plus rien de commun avec le rythme de vie naturel d'un humain. Ils devinrent réglés comme des horloges. Au début, ce nouveau rapport au temps, cette nouvelle régularité de la vie, fut imposé aux pauvres récalcitrants par les maîtres possesseurs d'horloges. Mais peu à peu, l'idée de régularité se diffusa de haut en bas jusqu'aux ouvriers. La religion et la moralité du XIXe siècle jouèrent leur rôle en proclamant qu'il était péché de perdre son temps. L'introduction de montres et horloges produites en masse dans les années 1850 permit la diffusion d'une conscience du temps jusqu'à ceux qui jusque-là réagissaient surtout aux stimuli du Knockerhop, le réveilleur, ou du coup de sifflet de l'usine. À l'église comme à l'école, dans les bureaux et les ateliers, la ponctualité fut érigée en la plus grande des vertus. De cette dépendance esclave au temps mécanique qui s'est diffusée insidieusement dans toutes les classes au XIXe siècle, s'est développée cette discipline démoralisante de vie qui caractérise le travail aujourd'hui. Repas pris à la va-vite, éternelle bousculade matin et soir pour prendre train et bus, la pression de devoir travailler à horaire fixe. Le travailleur commence, à son tour, à compter son temps, n'étant plus intéressé que par le moment où il pourra s'enfuir vers les maigres et monotones loisirs qu'offre la société industrielle, où il tue le temps, en se vautrant dans les plaisirs tout autant réglés et mécanisés du cinéma, de la radio, des journaux, que son enveloppe de paye et sa fatigue lui autorisent. Maintenant, le mouvement de l'horloge donne la cadence aux vies humaines. Les humains sont asservis à la conception du temps qu'ils ont eux-mêmes produite et sont maintenus dans la peur, comme Frankenstein par son propre monstre. L'oppression de l'homme par une de ses inventions est encore plus ridicule que l'oppression de l'homme par l'homme. La liberté pleine et entière implique aussi de se libérer de la tyrannie des abstractions. La tyrannie de l'horloge,